Passage du poète, deuxième partie. Et Congo, qui arrive sur la place, s'est frotté les mains l'une contre l'autre, recommençant à dire toujours sa même phrase, mais on ne l'entend plus. Le bâton a été mis dans la fourmilière. Besson ne regarde même pas, parce qu'il est là, sur son mur, à causer. Nouveraz crie à sa femme, « Lance-moi la clé !»« Émilie, tu entends ? Lance-moi la clé !» Parce qu'il y a, dans le réduit qui est sous le perron, les pots de fleurs qu'on rentre l'hiver, et Nauveiras voit que le moment est venu. Il rattrape la clé au vol, d'une main, dans le soleil, et on va mettre de nouveau les deux tonneaux peints en vert où sont les lauriers roses, dans le bas de l'escalier, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Puisque tout sort. Et les pots de géranium en terre jaune seront rangés en bordure aux marches de côté de la rampe de fer entre les barreaux de laquelle il y a place pour quand ils se referont des feuilles. On voit Nauveiras qui roule les deux tonneaux sur la tranche, ne pouvant pas les soulever. Ensuite, il est venu avec les pots qu'il tient devant lui des deux mains. Puisque tout sort, pendant que Besson cause, et Congo, lui, ne dit plus rien, et écoute, se tenant à quelque distance du groupe, et on voit changer la forme de l'ombre sur la place, brusquement, comme si on taillait dedans avec des ciseaux. Les grosses cheminées carrées dessinent leurs avancements, dont l'un se casse au bas d'une façade, étant trop important pour tenir tout entier sur le sol. Une petite fille chante. Une femme sort un fauteuil. Elle a été prendre dans le salon un beau fauteuil en velours grenat et à clous de cuivre, qu'elle apporte, le tenant par les deux bras. Pendant que Congo, lui, ne dit plus rien, ayant assez à faire à regarder. Mais à présent, ils ont tous regardé, même Besson. On a entendu le bruit de la canne dans le fond du corridor, et ils se sont tus sur la place. On a entendu la canne, on a entendu « Ça va, papa ? Eh bien, allons toujours !» Et il est né là-bas de l'ombre qui remplit encore le corridor, entre les murs peints en jaune, n'ayant été d'abord qu'une tache pâle par sa figure qu'il lève difficilement à cause du poids qui est sur sa nuque. Mais il la lève quand même, tant qu'il peut. Et sa fille, « Ça va ?» Elle le tient sous un bras. Lui, de l'autre main, tape sur le carreau avec sa canne, cherchant une place où l'appuyer. Puis il l'appuie. Alors il vient un peu plus. Alors son corps lui-même s'est défait de l'obscurité. Le soleil forme un triangle en arrière de la porte. Là, il s'arrête. Il s'est arrêté au bord du soleil, comme s'il n'osait pas entrer dedans. On voit qu'il a un bonnet en poil de lapin. Ses cheveux sont longs et sont blancs, faisant des mèches qui dépassent. On a vu aussi très bien sa main tachée de noir trembler sur le corbin de la canne. On voit qu'il est tout enveloppé dans une robe de chambre grise qui traîne, ne laissant sortir que le bout d'une pantoufle à grosses semelles de feutre. Quant à sa figure, on ne l'a plus vue. La seule chose qu'on voyait est à présent celle qu'on ne voit plus. C'est qu'il n'ose pas. C'est encore trop fort pour lui. Il baisse la tête. Et sa fille attend à côté de lui, sachant qu'il ne faut rien forcer, le soutenant, plus grande que lui, parce qu'il est devenu tout petit. Ainsi, nos enfants augmentent dans leur taille, et nous diminuons toujours plus. Mais tout à coup, c'est comme s'il poussait de nouveau. Une petite fille chante. On le voit grandir, comme on voit dans le bon soleil grandir la plante. Sur ce bord de soleil, et avant d'y entrer, et comme pour lui faire honneur, il se redresse, sa figure se montre de nouveau, elle se montre de plus en plus, allant vers en haut, avec les yeux qui s'ouvrent blancs encore. Et puis il fait un pas en avant, encore un, et encore un autre. Sa fille alors la fait asseoir dans le fauteuil. On vient. Les hommes qui sont sur la place ont tenu à venir lui serrer la main, parce qu'il a 93 ans. et il y a bien 6 mois qu'on ne l'avait pas vu, en sorte qu'on avait oublié même qu'il existât. Et la petite fille chante. Comme ceux qui sont sous la terre, dans l'oubli de dessous la terre, où il nous faudra bien entrer une fois, nous aussi, dans cette poussière d'oubli. Mais voilà que lui en sort, il l'a secoué de lui. Il se refait, il ressuscite. Il s'est appuyé au dossier du fauteuil, il va en arrière. Il a renversé la tête, il se tient droit, la peau de sa figure se tend, il rajeunit. Il met les deux mains devant lui, les tenant levées pour les réchauffer, comme à un feu de cheminée. Mais c'est surtout aux genoux qu'on a froid. Alors, il a ôté de dessus ses genoux les pans de sa robe de chambre, et le rouge lui monte de là par les tuyaux jusqu'à ses joues, tandis que ses yeux trouvent une couleur pour vous regarder. Et tout de suite, il a recommencé à parler. Il vous reconnaît, il s'est mis à rire pendant qu'on le félicite. Tous les bruits repartent. La petite fille qui chante toujours. Dans les cuisines où on met la table. Une bande d'enfants qui courent sur le pavé. Les moineaux. Et puis aussi, alors, le bruit des serrures des caves. Car il n'y a pas ici que ce qui est sur la terre. Il n'y a pas ici que ce qu'on voit. C'est seulement une moitié de ce qui existe qui se montre. La place fait défaut en largeur, mais non en profondeur. Et ils ont creusé, ayant des maisons qui sont enfoncées dans le sol, comme les dents dans la mâchoire, ou comme l'arbre, dont la partie apparente n'est rien encore, parce qu'il y a l'autre, il y a la racine, la base, le fondement, les en-dessous, l'explication, la raison d'être. Et tout bouge là-haut, et au-dessus de nos têtes est une espèce de vie. Seulement, ici, écoutez. Quand ça recommence là-haut, et tout recommence là-haut, les semelles à clous raclent le pavé. On parle, on rit, on appelle, on crie. Seulement laissez-les rire, laissez-les crier, laissez-les parler, parce que... Écoutez, a dit celui-ci en levant le doigt dans la cave, et puis il pose la main à plat contre un des ovales. Sentez-vous ? Il pose la main contre le mur. Sentez-vous ? Alors cet autre bruit s'élève, que d'abord on n'entendait pas tellement il est sourd, d'en dessous, intérieur, profond. Il a grandi, il part dehors, il a recouvert peu à peu les autres. Ils auraient beau chanter et crier plus fort encore, là-haut sur la terre, ils ne comptent plus. Ils sont sur la terre, et ici on est sous la terre. Quand le vin rebouge dans les tonneaux, et sous les douves, tout repart en même temps que la sève repart, parce que le vin se souvient. Il n'est pas encore détaché. L'enfant n'est pas encore complètement coupé de sa mère. Ils ont fait grincer les serrures des caves. Ils s'appellent les uns les autres. Ils se sont invités. Ils s'alignent sous la terre, de chaque côté de la longueur, contre les tonneaux eux-mêmes alignés, et ne laissant entre eux que juste la place qu'il faut pour ces deux rangées d'hommes se faisant vis-à-vis. Et amitié, fraternité. Le soleil de là-haut éclaire le dehors. Le nôtre nous éclaire en dedans. Celui-là les corps, celui-ci les cœurs. Celui-là se couche, le nôtre se lève. Ils ont dit à Besson, « Venez !» Besson se met avec eux et prend sa place dans une des rangées, pendant que celui qui remplit le verre est à un bout, et le verre va, revient, repart, fait le tour. Il regarde dedans, de haut en bas, ou il regarde au travers contre la flamme de la bougie. Et le vin bouge là, pour une chose qu'il a à vous donner. Tout à coup, par la porte ouverte, un homme qui descend a dit « Dites donc, il y a Gilles Hiéron qui est tout seul. Appelle-le !» L'homme remonte. Hey, « Hé, Gilles Hiéron !» Il lui semble avoir vu que Gilles Hiéron s'est retourné. Quelle heure est-il ? Il ne sait plus très bien, lui non plus, parce qu'on n'a plus besoin du temps. Pendant que deux demoiselles passent en robe blanche, se donnant le bras, et il fait rose. Et de nouveau, Hé, hey, là-bas ! Et on est en dehors du temps. Seulement Giliron est seul, et il ne faut pas. Alors, hé, hey, Giliron a fini par se retourner. Hé, hey, Giliron, allons, arrive ! Les demoiselles sont passées, on ne sait pas l'heure qu'il est, Giliron s'arrête. On l'appelle, il se tient arrêté. Arrive, parce que ça ne te vaut rien, tu sais. Et il ne bouge toujours pas. Alors l'autre s'est approché de lui, l'a pris par le bras, lui se laisse faire. Il est venu, et on lui a dit, on t'attendait. Il est venu, on lui donne une place, la meilleure. On l'a mis au milieu de nous, parce qu'il n'y a plus que des amis ici. Tous les hommes sont des amis. C'est ce qu'il n'avait pas compris encore. Il était seul, ça n'a pas réussi. Mais à présent, tu vas voir. Étant arrivé le dernier, il a fallu qu'il se rattrape. C'est pourquoi on lui a rempli son verre 3 fois de suite, et il vide son verre 3 fois de suite, pendant que les autres attendent. Et santé ! Santé ! Et puis ne pense plus à tout ça, c'est fini, parce qu'on est là. Étant à présent hors du temps, eux tous. Et Giliron boit encore une fois, pendant qu'on se tient tourné vers lui. Alors, il voit qu'ils sont une société. Et c'est ce qui vous manquait. Alors, il a hoché la tête. Hors du temps, parce qu'ils sont ensemble, au-dessus du temps. Le verre commençant à circuler est arrivé de nouveau à Besson. On ne lui avait rien dit. Il se contentait d'écouter et de boire quand c'était son tour. Il se tenait là, bien tranquille, sans rien dire. Il attendait que son tour fût venu. Alors il prenait son verre et le vidait, puis vous le rendait. Mais tout à coup, à cette tournée, on ne vous connaît pas bien encore. À cause qu'ils ont ce besoin. Et puis le cœur s'est délié, alors la langue fait de même. Ils disent des choses qu'ils n'auraient jamais osé, ni su dire, dans l'autre vie. C'est la fausse vie. Rien de ce qui nous importe n'y est dit, rien de ce qui est l'essentiel, rien de ce qui compte, rien de ce qu'on aime. Et il y a partout entre nous les murs du secret non percés de portes, parce qu'on n'ose pas. Ils ont osé. Et si on pouvait vous demander... Besson, vous pouvez. Alors ils ont dit, d'où venez-vous? D'un peu partout. Et il n'y avait déjà plus de temps. Mais voilà qu'il n'y a plus eu d'espace non plus. Les cloisons qui vous séparaient dans l'espace ont été ôtées. D'Amérique? D'Amérique. Tranquille, tenant son verre qu'il vide à petite gorgée, vous regardant tranquillement ensuite de dessous son front qu'il penche en avant avec son chapeau, puis sa barbe étalée en arrière, et il lève de nouveau son verre. Pourquoi pas? Parce qu'on lui a dit « De la Chine ?» Et on rit, et il rit aussi. D'Afrique ? On rit. Et puis il y a l'Australie, il y a les îles dans la mer. Il les nomme, elles sont appelées, elles viennent. Ils changent sans cesse de lieu, les océans sont traversés. Ils ont dit « Tahiti ?» Ils ont dit « Les Marquises ?» Tu te souviens, Auguste, il y avait ce nom-là dans notre livre de géographie quand on allait ensemble à l'école, et ça nous amusait, parce que c'était un nom de personne. Besson a dit « Les Marquises aussi, si vous voulez. » Pendant qu'il y a eu du bruit dans l'escalier, et ils ont vu que c'était Congo. « Tu tombes bien, justement, parler de toi. Encore une partie du monde. Vous voyez, monsieur Besson, vous la reconnaissez, celle-là. » Ayant alors tiré Congo au milieu d'eux et le tenant tourné face à la bougie, puis il lui tape sur l'épaule. « Tiens, tu viens de loin, tu dois avoir soif. Et on n'est plus ici à une place, mais partout. » Chapitre 6. Puis voilà qu'ils ont regardé le ciel de nouveau, se demandant « Qu'est-ce qu'il va nous donner ?» Arrêt. Ils sont arrêtés. De nouveau, il y a eu dans le fond du lac ces bancs de pierre mis l'un sur l'autre, comme si on y avait construit pour une assemblée qui aurait dû venir y prendre place. Et ce qui y prend place, c'est un mauvais vent qui vous arrive apportant le froid, qui fait que les femmes ont remis leurs châles, les hommes leurs gilets de laine tricotée. Après quoi, on n'a plus qu'à attendre, comme ils font, se tenant sur la porte des caves, tandis que l'averse pend en barbe d'eau aux avant-toits. Ils vont regarder le thermomètre, et le thermomètre marque 3 degrés, après qu'il a marqué 25 degrés. Alors, encore 2 de moins, parce que c'est tendre, c'est délicat. Il y a cette petite chair, comme celle de l'enfant qui vient de naître. Il y a qu'à peine on y touche, elle vous casse entre les doigts. Les premiers jets, les premières pousses, pas habituées à l'air avec leurs petites feuilles pâles de couleur transparente, pas encore capables de se défendre. Ils regardent le ciel ce soir, parce que si par hasard le temps venait à se lever pendant la nuit, et c'est pleine lune. Et en effet, le ciel s'est éclairci, les étoiles se sont montrées, alors ils ont été debout au petit jour. Ils sortent dans le petit jour pour aller voir. Heureusement que cette fois-ci, ils ont été quittes pour la peur, sous un ciel qui s'est recaché, pendant que le lac se remet à fumer vers eux, ses fumées. Il recommence à pleuvoir. On recommence à enfoncer dans la grosse terre où on reste pris par les chevilles. Il n'y a plus qu'à continuer d'attendre, comme ils font. Ils se tiennent les mains dans les poches, sous les avant-toits, regardant pleuvoir. Seulement, tout à coup, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils s'étonnent de voir qu'il y a des métiers où le temps qu'il fait n'importe guère. Se tenant autour de la place, ils ont vu venir Besson. Et Besson a mesuré de l'œil la distance qu'il y a entre les deux platanes où il s'installe d'ordinaire. Puis Besson s'en va. Besson revient. Ils ont vu que Besson avait été emprunter une bâche. Besson est monté sur le mur, et le voilà qui attache sa bâche à une branche par l'un des coins. À présent, il grimpe à un des troncs. Il se fait avec sa bâche un toit, ayant fini par la fixer et la tendre sur les quatre côtés. Il se met dessous. « Tombe seulement !» a-t-il l'air de dire à la pluie, parce qu'elle est autour de lui avec ses fines lignes grises, mais pas dans ce qu'il occupe d'air et dans le cube où il se tient. Étant reparti tout seul, comme pour vous donner l'exemple, comme s'il vous faisait signe avec ses mains, ayant recommencé avec ses mains à vous parler une espèce de langue, comme si elles écrivaient dans l'air des mots et encore des mots, les effaçant l'un après l'autre. Ils commencent à chercher à lire sans y réussir encore. Il pleut. Ils se tiennent sous les avant-toits. Ils essaient de lire entre les hachures. Seulement, à tout moment, elles sont poussées de côté, se confondant les unes dans les autres. On ne voit même plus Besson. Besson a disparu. Il reparaît. Il disparaît. On tire le rideau de nouveau. Il est assis sur le théâtre. Il est vu de plusieurs côtés et de tous côtés. On voit qu'il écrit toujours. Ça est venu, ça vient encore. On ne lit pas toujours très bien, mais on a fait des progrès. Ils ont commencé à pouvoir mieux lire. Une femme a dit « Moi, je me moque de la pluie. » Alors on a vu qu'il ne pleuvait presque plus. Et le petit, il faut qu'il s'habitue, parce que je veux qu'il puisse sortir par tous les temps sans s'enrhumer. On lui a dit « Peut-être bien que vous avez raison. » Elle lui a seulement, au petit, mis sur la tête son tablier. Elle s'arrête à quelques pas de Besson. Elle lui dit « C'est joli. » Besson « Vous trouvez ?» Elle « Et c'est un joli métier. » Besson a dit « Tous les métiers sont jolis. » Elle a dit « C'est vrai. » Elle a réfléchi. Elle a dit « Ça dépend de la manière dont on les fait. Vous, le vôtre, vous le faites bien. » Elle a ri. À ce moment, le petit a tendu les mains de dessous le tablier, pendant qu'il fait des mouvements avec la tête, parce que l'étoffe lui tombe sur les yeux. Il tend les mains, voulant avoir et voir. confondant voir avec avoir, comme font les petits enfants. Et c'est ce qui est beau. Touchant avec les yeux, voyant avec les mains, ne voyant pas encore sans toucher. Et comme il ne peut ni voir ni toucher, et veut les deux choses, voilà qu'il se fâche. « Mettez-le par terre !» a dit Besson. « J'ai peur qu'il ne vous gêne !»« Que non !» Pendant qu'aux autres la chose pousse en eux, la chose qui y est entrée, il regarde le petit que sa mère tient sous les bras, lancer en avant ses deux pieds ensemble, tellement il est pressé. Il voit qu'il ne pleut plus. « Pas vrai !»« Que si !» Ils mettent la main à plat devant eux. « Pas la moindre goutte !» Ils viennent. « Voilà votre bâche qui ne va plus servir à rien, monsieur Besson, sous les platanes. » Les petits platanes, taillés chaque année, à ras des 3 ou 4 branches qu'on leur a laissées, en sorte qu'elles sont devenues aussi grosses que le tronc. Mais on n'y avait jamais fait attention. Renflées du bout, massives, toutes boursouflées, sans aucune trace de feuilles encore, ni de bourgeons, semblant taillées dans de la pierre, semblant faites au ciseau dans un bloc de rocher. Pendant qu'ils viennent, et lui dessous, pendant qu'ils viennent, avec ses troncs de couleur claire, gris pâle, tachés de vert, là où l'écorce vient de tomber. Et on ne les avait jamais vus. Voilà que les troncs viennent dehors et viennent à vous, pendant qu'eux-mêmes viennent, et ils font le cercle, entourant Besson et le petit enfant qui s'est avancé encore. Alors Besson a fait taire ses mains, et entre ses genoux, il a arrêté sa corbeille. Au milieu du cercle, entre les platanes, sous la bâche, là le mouvement cesse, parce que les mains de l'enfant, à présent, peuvent toucher. Mais l'enfant de nouveau se fâche. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et ils regardent, et ils sont amusés. Et la mère, « Voyez-vous ça ?»« Voyez-vous ça ? C'est parce que ça ne bouge plus, et ils n'aiment que ce qui bouge. » Alors Besson est reparti. De nouveau, les osiers font leurs signes l'un devant l'autre et écrivent, comme à la craie, leurs lettres en l'air. Après que Besson a dit à la mère, « Faites attention !» Et le petit crie de joie, tandis qu'il faut le retenir, parce qu'il se porte de toutes ses forces en avant, voyant la corbeille tourner de nouveau au creux du tablier de serge verte, sous une barbe blanche, des yeux clairs. Chapitre 7 Et c'est tout plié à nous, par ici. Bovard de nouveau dans sa vigne, et ayant levé les yeux sur la côte. C'est de nous, c'est pour nous, c'est à nous. Il dit. C'est tout habitué à l'obéissance par ici, depuis le temps que c'est en vigne. Et le bon Dieu lui-même a décidé que ce serait en vigne, ayant orienté le mont comme il l'est, se disant. Je vais faire une belle pente, tout exprès, dans l'exposition qu'il faut, avec l'inclinaison qu'il faut, et je vais mettre encore dans le bas la nappe de l'eau pour qu'il y ait ainsi 2 soleils sur elle, que le soleil qui vient ailleurs d'en haut seulement vienne ici d'en haut et d'en bas. Je dis que c'est le bon Dieu qui a arrangé lui-même tout ça. Puis il nous a dit, « À votre tour !» Alors, quoi ? On est désigné. Soldats, caporaux, officiers, sous son haut commandement. Comme Bouvard dit dans sa vigne, se parlant ainsi à lui-même avec des mots qui viennent, et il en est étonné, mais il en vient encore. Nous, les hommes. Il en vient tellement de ces mots, que c'est tout juste s'il peut suivre. Le bon Dieu a commencé. Nous, on est venus ensuite, et on a fini. Le bon Dieu a fait la pente, mais nous, on a fait qu'elle serve, on a fait qu'elle tienne, on a fait qu'elle dure. Alors, est-ce qu'on la reconnaîtrait seulement à présent ? Dit-il encore, sous son habillement de pierre ? Et ailleurs, l'homme se contente de semer, de planter, de retourner. Nous, on l'a d'abord mise en caisse. Regardez voir si ce que je dis n'est pas vrai. Mise en caisse, je dis bien, mise tout entière dans des caisses. Et ces caisses, il a fallu ensuite les mettre les unes sur les autres. Et il montre avec sa main, qui monte de plus en plus, par secousses, à cause de tous ces étages, à cause de tous ces carrés de murs comme des marches. Et à présent, ce n'est plus du naturel, c'est du fabriqué. C'est nous, c'est fabriqué par nous. Ça ne tient que grâce à nous. Ça n'est plus une pente, c'est une construction. C'est une tour, c'est un devant de forteresse. Pendant qu'il montre encore, de dessous son éperon, devant lui, le déroulement de tout ça, avec les renflements qu'il y a par place, et des avancements comme celui sur lequel il se tient, et des retraits en un grand demi-cercle, songeant au temps qu'il a fallu, songeant à la peine qu'il a fallu. Des centaines d'années, 1000 ans, 2000 et plus, la bise fait bouger les pointes de sa moustache. Il tient d'une main le manche du fossoir. L'autre, il la lève, il la promène autour de lui. De nouveau sur son éperon, sur sa bosse, haut perché comme sur un socle, avec le vide derrière lui, à 100 mètres au-dessus de l'eau, contre une montagne bleue et blanche, et aussi grand que la montagne bleue et blanche, se tenant tourné vers le mont, et alors, de ce côté, la terre vient à sa rencontre, de sorte qu'il faut qu'il renverse la tête pour la considérer. Pourtant, il continue. Il ne peut plus s'arrêter. Il voudrait s'arrêter qu'il ne pourrait plus, parce qu'il y a le poète. Les mots sortent de lui tout le temps, comme quand les ruches se réveillent. Depuis les tout vieux temps, depuis aussi loin qu'on existe, depuis les Romains et depuis les moines, les vieux temps et les tout vieux temps, et ça s'appelle encore par ici l'abbaye. Il y a le vin des abbesses, ça s'appelle le prieuré. C'est plein de noms de ces temps-là, partout. C'est encore plein de leurs ouvrages. Et regardez-moi ces murs, regardez-moi seulement ces murs, si loin que l'œil porte. Si loin qu'on tire avec le regard en haut et en bas, à droite et à gauche. Combien ça en fait-il? Parce qu'il a fallu, sans quoi la terre serait venue en bas. Alors ils en ont fait un premier, puis un autre, et puis 10 et 100, puis 1000, puis 10 000, commençant par le bord de l'eau. Après quoi ils sont montés. Ils sont montés toujours plus. Ils sont montés jusque dans le ciel, à leur échelle. Et là, ils auraient trouvé à grimper encore, qu'ils seraient grimpés. Depuis les vieux temps, depuis tout là-bas dans le temps, d'année en année. Les Romains, les moines, les gens à robe, les gens à pantalon, et puis des autres, et encore des autres, et puis nos arrière-grands-pères, et puis nos grands-pères, et puis nos pères, et puis nous. À faire, et ensuite à refaire, à construire, et à reconstruire, et à re-reconstruire, entretenir, recimenter. Chaque année, remonter sur son dos la terre. Remonter à la hotte la pente tout entière. Aller voir où ça s'est fendu, là où le mont pousse en avant, là où la pierre cède, là où elle se fissure. Et boucher les trous, combler les fissures. Repousser le mont en arrière, faire que ça tienne quand même, faire que ça dure. Depuis 2000 ans peut-être que ça dure, mais ça n'aurait pas duré, et ça ne durerait pas si on ne s'en était pas mêlé, si on ne rebâtissait pas tout le temps. Il s'est arrêté, fatigué de mots. Seulement, c'est vrai. Il y avait depuis très longtemps dans sa tête une vérité qui ne pouvait pas venir dehors et le tourmentait. À présent, il est délivré. Il est grand, il est maigre, il a encore la moustache noire. La bise en fait bouger les pointes. Il se tient face à la bise qui vient d'en haut, levant la tête, les mains autour du manche de son fossoir, sous le soleil, contre la terre. Et il est lui-même la terre, où seulement l'esprit vivrait, où la conscience se tiendrait. Il sort d'elle comme la souche en sort, ayant la couleur de l'écorce sur sa figure brune et moussue, avec des rides en tous sens comme des crevasses dedans. Il sort de ce mont où il va rentrer, et un moment se tient debout sur lui pour le dire, puis retournera à sa parenté. et on voit la ressemblance, étant fait lui aussi de pierre par en dessous, ayant les os saillants, épais, fortement soudés, fortement tenus ensemble. Il parle, étant le mont lui-même, étant la vigne, étant lui-même produit et porté dehors, étant une production, fait de pierre et d'argile, cimenté comme un mur, couleur de terre, couleur de souche, couleur de roc, couleur d'air, couleur de saison. Et grand, maigre et osseux, et grand, et dressé tout debout contre le mont lui-même dressé, sur ses deux pieds qui y sont enfoncés. Mais lui-même va dehors, va plus haut, et il se tient comme le mont se tient, mais échappe d'en haut avec sa poitrine et sa face, là où est logé le cœur, là où habite la connaissance, là où le regard se tient à ses fenêtres. Étant le mont, mais aussi sa conscience, c'est-à-dire son expression, ce qui prolonge, ce qui sait en arrière et sait en avant, se rappelle, prévoit, combine, veut. Et depuis les vieux temps, et les tout vieux temps, reprend-il, mais pour les temps futurs, parce que nous, on est au milieu. Ayant une intention, ayant une idée, occupant un poste supérieur. Et on a plié ça à nous, comme il reprend. Étant fait à la ressemblance de ça, mais faisant à son tour ça à sa ressemblance. C'est à nous, c'est de nous. Et il caresse ça de la main, avec des mouvements de la main arrondis, d'où il semble que la forme naît, comme quand on caresse une femme, et la caresse la refait. Et dessus, le travail des hommes, et ce qui en sort, grâce aux hommes, la belle vigne, et rien que de la vigne, les milliers de souches bien alignées et en bel ordre, mises partout où on a pu, mises en rangée, taillées, nettoyées, ébourgeonnées, soignées, fumées, et d'où à présent le sarment neuf commence à sortir aux cornes par deux jets couleur de miel, à petites feuilles transparentes encore, mais déjà leur couleur est partout, pour une promesse, sortant à chaque instant un peu plus sous le grand soleil. Et tout à coup, Bovard est reparti, parce qu'une colère lui vient. Alors, ils planteraient par ici leurs tomates, ils viendraient avec leurs primeurs, leurs légumes, comme si on avait besoin de légumes, leurs cardons, c'est-à-dire chardons, c'est-à-dire de la nourriture pour ânes, leurs abricots, leurs espaliers, leurs framboisiers, leurs le diable c'est quoi encore. Parce que ça n'a pas été pendant 2 ou 3 ans, ils renieraient le pays? Jamais. Tant pis, dit-il, même si ça ne devait plus aller du tout. Parce que de nouveau les mots lui viennent. C'est de faire pour rien qui est beau, même si le travail ne paie pas, parce que c'est de faire qui compte. Quand même je serai tout seul, et quand même je n'ai pas été gâté, quand même je sais bien ce que c'est, allez. Et on n'est pas toujours payé, et c'est dur, et c'est ingrat, et c'est toujours la même chose, mais je dis, c'est ça qui est beau. Alors il a pris son racloir, et il donne un coup de racloir. On a déjà raclé une fois, on va racler une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Et je dis, c'est justement ça, c'est ce manque de variété. C'est justement parce qu'on a une plus grande peine, parce qu'on risque davantage, parce qu'on a misé sur une chose, et une seule, toujours la même. Et ça, c'est l'honneur. On ne se paie pas en argent, nous autres, vous voyez bien. On ne gagnerait plus un sou qu'on ferait ses vignes quand même. Il racle. On ne peut pas être payé en argent pour un travail de ce genre-là. On est payé seulement d'y croire. On est payé dès qu'on y croit. Nous, on est comme le soldat. Le soldat se bat pour se battre. On est comme une mère. On est comme une mère avec son enfant. Ça ne lui fait rien qu'il soit mal fait. Plus il est mal fait, plus elle se donne de peine pour lui, plus elle l'aime. Elle lui donne tout sans rien demander, parce qu'elle est payée de l'aimer. Il racle. Je dis que c'est comme ça. L'honneur et l'amour, et point d'argent du tout, s'il faut, parce qu'il resterait l'honneur et l'amour. » Il racle. « Et quoi qu'il arrive, on garde ses vignes, et on crèvera dessus, nous autres, mais on ne les reniera pas. On crèvera, mais on leur restera fidèles, et au pays, et à ce qu'ils l'ont fait, et au pays comme ils l'ont fait. » Raclant à grands coups pour le bien montrer, raclant, et c'est un travail d'homme, une fois les pousses sorties, parce que si les femmes venaient, elles risqueraient de les abîmer avec leurs jupes. Nous qu'on est de la vieille espèce, de la bonne espèce, de la vieille bonne espèce, et on est quelques-uns encore de cette espèce, alors hardi. Il racle. Chapitre 8. Lui, pendant ce temps, va de nouveau sur la route, qui est au-dessus, au-dessous de vous, est au milieu de vous, d'abord, puis, montant toujours plus, s'échappe. Sous ses paniers et ses corbeilles, ayant travaillé le matin, après quoi il a pris sa hotte, comme un enfant entre ses bras, il passe dans la courroie l'épaule droite, l'épaule gauche, et il dessine la ligne du mur en passant derrière, à cause de sa partie claire qui est aussi sa partie d'en haut. On voit qu'il a pris la côte en travers, s'élevant toujours plus par une pente égale. Là-bas, et presque à la même hauteur que la route, Bovard est sur son promontoire. Bovard se redresse, il lève la tête un moment, il devient silencieux. L'outil s'étue entre ses mains, tandis qu'il lève la tête et regarde. Un autre, alors, au-dessus de la route, sort d'entre les feuilles, comme le nageur. Il sort avec son dos d'entre les feuilles, gardant ses jambes enfouies. Il se retourne, et lui, c'est d'en haut qu'il regarde, et voit. Ce qui passe, ce qui va, ce qui quitte l'un pour aller à l'autre, ce qui réunit. Eux, immobiles chacun dans son carré de mur, chacun sur sa marche d'escalier, et étagés, et lui, qui alors a le mouvement et est comme un message de moi à toi, de nous à vous, et est messager, et est en voyage, pendant que le soleil le marque en clair et en brillant. Et chacun qui se redresse, qui regarde, et lui qui va. Alors la route fait un contour. Elle arrive à une place où il y a un repli dans le mont. Là, on voit qu'il y a des arbres, les cyprès qui montent tout droit comme des colonnes noires, des saules pleureurs au feuillage clair, allant en sens inverse, étalés. C'est qu'ils veulent que leur mort soit couchée bien à plat et profond sous la terre, quand ils les couchent pour toujours. Ils veulent que leur mort soit comme dans un lit. Ils ont choisi la seule place où il y ait une assez grande épaisseur pour les mettre, comme il est convenable, la tête pas plus haut que les pieds. Ailleurs, sitôt qu'on creuse, on rencontre le roc. Ailleurs, la pente continuellement se tient droite. Alors c'est ici, dans ce repli, dans cette poche, après le tournant de la route. Et il y a d'abord, pour l'œil, ce carré d'une autre couleur, puis, par la grille, on aperçoit les croix de marbre, de l'herbe, de la pervenche, comme Besson a fait, tournant un peu la tête. Et puis il a passé. Lui, on ne l'a pas vu tout de suite. On ne savait même pas qu'il était là. Lui, il y avait longtemps qu'on ne le voyait pas. Longtemps, il n'a pas été vu. Longtemps, il avait été comme disparu du monde, comme étant déjà hors du monde. Longtemps, il a été dans son trou, descendant à mesure qu'il en fait descendre le fond davantage. Un trou au bord net, bien tranché, aux lignes bien droites et d'équerre, faisant quatre angles égaux, comme une porte, dont on s'étonne seulement qu'elle soit si étroite en proportion de sa longueur. Une porte faite de manière qu'on ne puisse jamais y passer deux de front, faite pour une seule personne, et qui s'ouvrirait sur en bas. Une porte par où on descend, par où on ne peut que descendre. Et lui, le premier, y est descendu. Alors on ne l'a plus vu. Longtemps, on ne l'a plus vu. Il est descendu, il s'est défait, il s'est détruit lui-même peu à peu, il s'est en allé de parmi les hommes, Il a quitté le monde avant son temps. Et Besson passe. Il a été ôté comme nous le serons chacun notre tour, mais lui avant le sien. Lui qui était n'est plus, et rien de ce dont il était fait n'a plus été, longtemps. Ne connaissant plus l'air, ne goûtant plus la bonne chaleur du soleil, ni sa douce lumière, étant dans la nuit, dans le froid, dans l'humidité, hors de l'air, au-dessous même des racines des arbres, sous la vie. Alors on ne compte plus. Seule la lame de la pelle s'est encore allumée une fois pour s'éteindre, mais les oiseaux ne se dérangent pas, ni même les lézards qui se chauffent sur les dalles. Une pelletée de terre de nouveau dégringole au flanc du tas par les plus grosses de ses mottes, mais ni le pinson, ni le merle, ni la grosse femelle merle grise posée sur une couronne de perles ou la pie de deux couleurs en train de sautiller dans l'allée. Et Besson passe. Besson a passé. Ayant jeté, en passant, un regard entre les barreaux de la grille sans apercevoir personne, puis ayant continué. Pourtant c'est à ce moment, et comme il vient de tourner l'angle du mur. La pelle a été lancée, la lame en l'air, hors du trou. Une tête s'est montrée. Le dessus d'abord d'une tête aux cheveux tondus ras qui laisse voir la peau plus foncée. Comme quand ils feront effort un jour avec la tête, écartant les mottes de dessus, eux, soulevant de la nuque la dalle de leur tombeau. Et ils paraîtront avec la tête d'abord, entre les mottes qu'ils écarteront, en poussant de côté la dalle de leur tombeau. Un dessus de tête brûlé de soleil, en sorte que les cheveux sont plus clairs que la peau. Elle monte par à coup, par secousses, avec des arrêts, à mesure qu'il met le pied plus haut contre les parois de la fosse, y assurant le bout de son soulier, et les épaules ont suivi. Comme ils feront un jour, venant aussi dehors avec peine, venant peu à peu. Deux épaules, dans une chemise en flanelle coton de couleur grise. Lentement, dans le jour, dans la bonne chaleur, dans la lumière, hors de la mort, avec sa chemise, puis on l'a vu qui a posé un de ses genoux, son autre genou à la surface de la terre, ne la touchant plus ainsi que du côté d'en bas, par un de ses bouts. Alors on a vu sa ceinture de cuir noir, puis son pantalon qui est en futaine marron, parce qu'à présent il est debout, ayant mis la terre au-dessous de lui. Comme ils feront, eux aussi, une fois, ceux qui auront été choisis, lentement, difficilement, parce qu'il a dû céder des mains, et il n'est pas encore très assuré sur ses jambes. Comme eux-mêmes seront, à cause que tout viendra contre eux à la fois. Ils ferment les yeux, ils s'avancent en tâtonnant, ils bougent les mains devant eux, comme quand on apprend à nager. Ils respirent mal de trop d'air, ils ne voient pas bien de trop de lumière, ils croient d'abord qu'ils rêvent par excès de réalité. Il faudra qu'ils apprennent de nouveau à marcher, apprennent à respirer, apprennent à voir, apprennent à croire à ce qu'ils voient, pendant qu'ils balancent, butent, tombent, se relèvent. Comme lui, sorti de son trou, qui vient, et il ne se tient pas bien debout, on dirait tout le temps qu'il va tomber, qui vient, tout chancelant encore, entre les tombes, dans la direction du mur, la main au-dessus de ses yeux. Il doit se protéger la vue contre le monde qui a été porté tout entier contre lui. Et les choses les plus proches sont les premières qui sont sorties avec leur forme et dans leur contour, cependant qu'il s'est penché dans l'ombre du mur sur les petites feuilles toujours vertes des pervenches, qui sont comme s'il avait plu dessus. Et elles ont des fleurs violettes et des fleurs blanches, et une fois viendra où elles auront des fleurs pour toujours. Lui, aujourd'hui, comme eux plus tard. Et puis il va à son panier, qu'il a caché dans les pervenches, dont il a écarté les feuilles de la main. Ensuite il écarte le linge bien blanc qui le couvre. Il a pris son panier, il se redresse, alors il a vu par-dessus le mur le monde venir. Il monte sur le mur, Il s'y assied, les pieds pendant dans le vide, et le monde au-dessous de lui a été se refaisant peu à peu. Le monde se balance encore légèrement par ses masses, son ciel, ses montagnes, son eau, puis les choses viennent se mettre en place, se soudant l'une à l'autre étroitement, et elles ne bougent plus. Tandis que lui est là, assis les pieds dans le vide, se réjouissant simplement des bonnes choses retrouvées. Et ayant maintenant porté ses yeux de tous côtés, il a pu voir sur la route la haute colonne blanche des corbeilles et des paniers disparaître à un contour. Un homme s'est dressé encore entre les souches, un homme, puis un autre encore, étant pris jusqu'à mi-corps dans le verre comme dans une inondation. Ils pendent les uns au-dessus des autres, parmi leurs murs, contre la côte, qui tombe là, d'un coup, d'un seul mouvement, jusqu'à l'eau. Et ils se tiennent de la main à la terre, quand ils y montent sans avoir besoin de se pencher. Besson s'avance le long des bancs de rochers qu'on a dû entailler pour y loger la route. Alors on voit encore dans ces bancs les trous de mines, pareils à une moitié de canon de fusil de gros calibre et montrant leurs deux dents lisses sous le doigt parmi les cassures de l'éclatement, sous lesquelles il va, dépassé par elles jusque dans le ciel sur un des côtés, et de l'autre il plane, il domine. Quand il y a cette cascade où même l'œil ne peut pas s'arrêter, roulant de ressaut en ressaut jusqu'au dernier surplomb d'où il lui faut s'élancer dans le vide. Il a pris un contour, il a pris un autre contour. La roche à vif est à sa gauche et chauffe. L'air est à votre droite et vous rafraîchit. Lorsqu'il passe, on lève d'en bas une tête qu'il faut lever beaucoup et renverser. Lorsqu'il passe ici, comme dans les airs où il est au-dessus de vous et a été comme un nuage, les jolis, les petits, les blancs, les floconneux, de quand le temps se met au beau. Il tient ses pouces sous les courroies. Encore une fois, il fait tourner le mont qui vient avec un de ses avancements et se déplace sur son axe pour se présenter à vous de face, se retire dans l'autre sens pour être à côté de vous. On voit venir une maison rose, accrochée au-dessus du vide, devant la boîte de l'air bleu, à laquelle l'épaisseur même de ce bleu sert de fond. On a vu venir le rose des murs, où il y a de chaque côté des fenêtres un contrevent peint en vert sous un toit à deux pans, et une petite terrasse est supportée par un grand mur. Un cheval attaché sur le côté de la maison, tour à tour avance la tête vers le vide et la retire en hennissant. Dans la salle à boire, un homme est assis tout seul devant sa chopine en verre blanc. L'air entre par l'ouest, et la vue par l'ouest, et la vraie lumière ici vient d'en bas. C'est pourquoi elle est au plafond. Besson a frappé à la porte d'entrée, d'ailleurs grande ouverte, et dont l'unique battant est poussé contre le mur.
Y a-t-il quelqu'un ?
Il est celui qui offre aussi une espèce de marchandise qui peut s'acheter pour de l'argent, et frappera aux portes, connu de loin pour ce qu'il est, et répétant sa même phrase sur le perron d'une ou deux marches, à côté du racloir usé dans le milieu. Et en même temps, le soleil vient d'en bas. C'est le plafond de la salle à boire qui est éclairé, et non le plancher. L'autre soleil, celui d'en bas, le vrai, le seul qui compte ici. Lui, à l'entrée du corridor, peint en jaune, heurte au panneau rabattu de la porte avec sa main gauche.
« Oh non, merci, on n'a besoin de rien. »
Il vous est répondu une chose, puis
« La patronne n'est pas là. »«
Dites-lui qu'on repassera. » »«
C'est entendu. »
Une grosse fille brune, au bras nu, s'est réchauffée. Il a dit « Ça va bien, donnez-moi quelque chose à boire. » Il a sa barbe blanche frisottée, il est entré. Alors il y a eu cette dentelle au plafond. L'homme, déjà installé à une des tables, lève vers lui les yeux de dessus sa blouse bleue brodée de noir, au col et au poignet, Il touche du doigt l'aile de son chapeau en manière de salutation. La manche empesée redescend avec un petit bruit, et au-dessus de vous, ça danse. Il y a cette dentelle qui pend, comme si elle pendait dans le vent, baignant dans l'air qui la balance. La lumière partout, tellement de lumière, comme quand nous ressusciterons. Besson s'est assis près de la fenêtre. La belle fille revient, riant avec toutes ses dents au bas de sa figure brune. Et il y a ses bateaux et ses barques montant vers vous par l'ouverture dans le mur, celle des pêcheurs à petite voile, celle à pierre, qui en ont deux grandes. Chapitre 9. Tout qui est parti. Vigneron, si tu veux boire, taille ta vigne à la Saint-Grégoire. Après qu'ils ont, pendant l'hiver, remonté la terre qui descend le mont chaque fois qu'il pleut, après qu'ils ont remonté sur leur dos dans des hottes le mont qui vient en bas, et ils ont rhabillé de sa terre le roc qui sans cela serait bientôt à nu, après qu'ils ont porté le fumier, fait les minages, fabriqué les échalas, soigné le vin, un jour, et autour de la Saint-Grégoire, les hommes ayant encore leurs habits d'hiver, leurs gilets de chasse, les hommes avec le sécateur ou la serpette. Et ils sont partis, et puis ils retombent. Montée, descente, ils vont en avant, ils vont en arrière, ils sont dans le temps et comme le temps. Il fait du soleil, puis il pleut, puis il neige. On sue dans sa chemise le lundi, le mardi on se souffle dans les doigts, et cependant ils vont, ou ils essaient d'aller, égrenant les jours du calendrier, allant à ces saints, qui sont les bons saints ou les mauvais saints, assis comme ça dans leur robe au bord du chemin de l'année. Saint Mamère, Saint Pancras, Saint Médard et les saints de glace. Taillant, raclant, fossoyant, raclant de nouveau, et bourgeonnant. Et on dit éplané. Ils vont ainsi, ils s'encouragent, ils se découragent. Ils grêlent, les bois sont mal sortis. Ah, quand est-ce qu'on sera payé de ses peines? Quand est-ce qu'on pourra enfin se confier aux choses avec son cœur? Cependant, quelqu'un est assis dans le café rose, près de la fenêtre, comptant les voiles, comptant combien il y a de bateaux. L'homme à la blouse a payé. Il touche de nouveau du doigt l'aile de son chapeau. L'homme sort. Un bateau qu'il fait lever, tendant la main, un petit, qu'il fait monter à lui à travers l'air. Et il y a des allumettes à tête rouge dans un porte-allumettes réclame en faïence. Du fond de la distance, où c'est si bleu, un à un, ces bateaux, les petits, ceux à rames, et puis les barques sous leurs voiles, et comme si c'était déjà un autre monde, tellement c'est beau. La hotte avait été mise debout par lui contre une table, et monte là jusqu'au plafond, monte dans le soleil qui monte, comme si on était déjà dans un autre monde. Le plafond bouge, le haut de la hotte bouge, comme quand il y aura de la lumière partout, et tout ce qui sera, sera complètement. On dirait qu'il prend avec les yeux les choses qui sont et les arrange, de sorte qu'elles sont à nouveau, et elles sont les mêmes, et sont autrement. Une grande barque à pierre se met à pencher, on ne sait plus où ni dans quoi, sous ses deux grandes voiles très pointues et croisées, et on ne sait plus si c'est sur l'eau ou bien au milieu des airs. Il met de la montagne tout autour, mais en même temps il l'a renversée, et on la voit finir en même temps et se recommencer. Rien ne va plus jamais avoir assez d'être. Plus jamais, rien ne croira exister assez complètement. La montagne a refoulé l'eau, qu'elle crève, qu'elle a niée, crevant la surface de l'eau, niant la présence de l'eau. La barque s'est mise à pendre en l'air comme à un fil, étant à la gauche des neiges, c'est-à-dire au niveau de la grande paroi des rochers du Noirmont, et au-dessus des pâturages, comme une machine aérienne, comme une mouette égarée. On comptait les villages, on voit qu'on s'est trompé. On comptait jusqu'à 5, On voit maintenant qu'il faut compter jusqu'à 10. On recommence. C'est bien ça, parce que chacun d'eux est à double, avec leurs taches rouges-jaunes, les taches rouges doux qu'ils font. Ils se mettent un peu à bouger, et le haut de la hotte bouge, et l'air bouge, la montagne bouge, et la barque bouge, et le plafond bouge. Et tout à coup, le mont aussi fait un mouvement sous un reflet qui passe à sa surface. Temps où tout est parti enfin, et cette fois définitivement. En 2 ou 3 jours, on a vu les bois de la vigne grandir d'un bon pied. Les feuilles ont été comme des mains qui s'ouvrent en même temps qu'elles étalent, puis elles étagent leur masse, comme quand vient une trombe quand il y a une inondation. On y a été jusqu'aux genoux, jusqu'à mi-cuisse. On y a été jusqu'en haut des cuisses, jusqu'au ventre, jusqu'à la ceinture, jusque sous les bras, comme le fossoyeur dans son trou. On ne va bientôt plus pouvoir dormir pendant 8 jours à cause de la grande odeur. Tout part, et déjà sortent les grappes, qui semblent, elles, nier le temps, et, sautant par-dessus l'été, crier les vendanges d'avance, avec leurs petits grains parfaitement formés, qui trompent, ronds, durs, nets, comme les vrais grains de plus tard, les grains de raisin qu'on aura, et on peut les compter déjà, sauf les surprises, les maladies. Mais on n'en aura point, tout part, et on ne va plus pouvoir dormir pendant 8 jours. C'est lorsque chacun de ces faux petits grains éclate, laissant venir dehors ses poils blancs. Alors, de très loin, l'abeille est appelée. L'abeille vient aussitôt. Le mont en même temps sent bon, et le mont se met en musique, chante de jour, sent bon la nuit, quand on ne pourra plus dormir. Mais ça ne fait rien, même c'est tant mieux. Si on dort, c'est qu'on est puni. On dort parce qu'on est mal fait, on dort parce que c'est un petit peu mourir, parce qu'on a été condamné à mort. Il les a regardés l'un après l'autre, derrière les lauriers roses en pot, ceux qui sont à la même table que lui et ceux qui sont aux autres tables. Et je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais que vous soyez de mon avis ou non, ça revient au même, parce que c'est la vérité, a-t-il dit. Et la vérité importe avant tout. Commençant un discours. Derrière les lauriers roses dans leurs demi-tonneaux peints en vert qu'on vient de sortir devant le café, sur la place. Alors ils font avec leurs feuilles comme un mur. On est comme derrière un mur. Ils font en avant du café une espèce de petite chambre où on se tient par ces nuits déjà chaudes et on se tient là, entre connaissances. Il descend du village de temps en temps, ainsi, et vient s'asseoir au bord de l'eau pour le plaisir de la conversation. Et c'est là, justement, devant le lac, sur cette place d'armes. Oh, tant d'étoiles ce soir! Alors on en voit une ou deux au-dessus de soi, et les autres sont vues par les trous qu'il y a dans le feuillage des grands arbres, comme des fenêtres où elles regardent. Et il n'y a que la vérité qui compte, a-t-il dit. Les grands vieux arbres, aux troncs qui se penchent vers l'eau tant qu'ils peuvent, comme un qui veut boire. Et l'amitié? Mais c'est la même chose, l'amitié et la vérité. La vérité et l'amitié. Tais-toi, Calamin. Non. Calamin, qui descend parfois d'un mimon pour le plaisir et pour les choses qu'il a à dire, et il est avec ses amis. Puis il n'y a plus eu dans le café que des amis. Il y avait des gens des barques et des pêcheurs à une table. Il y avait à une autre table Monsieur Borgeot de la boutique avec un gendarme. Il y avait à la troisième table Calamin avec des gens de son espèce, qui est encore une autre espèce, celle qui n'est guère quittée par le vin.